aux enfants d'Israël. Est-ce que c'est clair ma question? Si c'est si évident que ça qu'ils rentrent chez eux, pourquoi est-il nécessaire que Dieu confirme à Abraham que c'est bien à lui que, et à sa descendance que ce pays sera donné? Voilà.
On le sache bien aujourd'hui,
certainement. Bon, ça en plus, mais déjà la question c'est sur le texte lui-même. Effectivement, on va diagnostiquer qu'il y a quelque chose d'analogue de notre temps. Il faut aussi convaincre aujourd'hui le peuple juif que ce pays est bien à lui. Bon, mais je prends la question au niveau de l'exégèse, au niveau d'Abraham déjà. Et vous verrez qu'il y a une réponse simple d'après l'exégèse. Et d'ailleurs, ça nous donnera beaucoup d'éléments de réflexion pour la situation actuelle. Mais d'abord, que la question soit claire. Okay. Tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est que Dieu n'a pas demandé à la famille de Terach, à travers Abraham, d'aller au pays de Canaan. Ils y vont tout seuls. Dieu a demandé d'aller jusqu'à Moria, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, s'il en est ainsi, s'ils rentrent chez eux, pourquoi il est nécessaire que, si souvent, déjà dans notre paracha, Dieu doit confirmer à Abraham, ce pays, c'est bien à toi que je le donne. Et nous allons voir, c'est dans cette paracha qu'est ce verset, que la difficulté qu'a Abraham d'entendre cette confirmation fait qu'il va y avoir l'annonce de l'exil. Et regardez le paradoxe. On sort d'exil. L'exil des Hébreux qui est arrivé à une catastrophe. L'exil des Hébreux à Babel. Et à ces rescapés de l'exil, qu'est-ce que Dieu va finalement dire? Abraham, si c'est comme ça, sache que ta descendance ira en exil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du paradoxe énorme de ce récit. Okay, c'est un peu... Je change de sujet pour vous donner une analogie. Après les 10 commandements, et le premier intitulé des 10 commandements, c'est « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays d'esclavage », le premier commandement qui va être donné dans la paracha qui suit, « Quand tu acquerras un esclave hébreu ». D'où il sort cet esclave hébreu? On vient libérer les Hébreux. On vient libérer tous les Hébreux de tout esclavage, à la suite d'une intervention de Dieu, des 10 plaies, les catastrophes de la fin de la civilisation égyptienne. Et la première des choses à laquelle la Torah parle, c'est un esclave hébreu. C'est un esclave hébreu, d'où il sort? Vous avez compris le paradoxe? Ça ressemble sur un autre sujet. On sort d'exil. Et Dieu confirme à Abraham, tu rentres chez toi, c'est bien chez toi, pour toi et ta descendance. Et Abraham va dire, t'es sûr? À quelles conditions? Dieu dit, ah, si c'est comme ça, ta descendance ira en exil. Je voulais mettre ça en évidence. Okay, vous voyez qu'il y a un problème qui s'attache à notre histoire. Donc, alors voilà en tout cas la question que je voulais poser. J'ai vu qu'il y avait deux questions. J'espère si c'est lui d'abord. Si c'est sur le sujet, oui. Mais rapidement. Hein.
Chronologiquement, à partir de quand se situe le début de la civilisation avant Abraham?
À partir de Haïver, l'ancêtre d'Abraham.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais c'est ce qu'on a appris, donc, je ne sais pas si c'était la semaine dernière, c'est ce qu'on a appris du récit expliqué par le Midrash. Il y a eu la dispersion humaine en nations. À tour de rôle, chaque nation va devenir la figure de proue de la civilisation. Et on a appris que cette identité hébraïque, comme plus tard sa descendance, l'identité juive, va se situer, comme par hasard, là où la civilisation passe. Donc, le problème, les Hébreux à Babel, c'est pas plus mystérieux que les Juifs en Amérique. En fin de compte, la civilisation passe en Amérique, en fin de compte, les Juifs sont en Amérique. Ils sont aussi ailleurs, mais tout le monde sait que c'est là-bas que ça se passe, pour les Juifs. Surtout les chassidim, ça. Okay. Et puis... c'est la même question. C'était le tour de Babel d'être la civilisation du temps. Les Hébreux sont à Babel. J'ouvre une parenthèse quand même pour ta question, mais que ce soit bien clair pour tout le monde. Okay. Retenez ce que vous apprenez avant. Okay. Parce que sinon, on ne peut pas avancer. C'est un texte qui s'est... Une minute, je n'ai pas fini avec lui. Tu vas me faire oublier ce que je voulais dire. Vous êtes vraiment... comment on dit en français, j'ai oublié. Hein? Ah non, rappelez-moi comment on disait au Talmud Torah français. je reprends ta question. Je voudrais me resituer dans ton problème. Ne me faites pas passer par des tangentes. Okay. C'est cela. Je vais vous donner deux thèmes du temps de Dora Pelaga. Dora Pelaga, c'est quand l'humanité une. Reprenez le premier verset du chapitre 11. La terre parlait une langue une, laissez-moi parler, et des dialectes particuliers. Il y avait une langue universelle. Ça a disparu quand il y a eu la révolte contre l'unité dans l'histoire de l'humanité. À Babel, la langue une a disparu. il est resté les dialectes particuliers aux différentes familles humaines. Alors les hommes ne se sont plus compris. Mais le fait de dire qu'il y avait une langue une, eh bien, c'est désigner de façon concrète un universel humain réel. Aujourd'hui, la langue une, la civilisation est encore à sa recherche. Je veux dire, ça a une histoire, ce problème de la langue une. Les Grecs ont réussi à trouver le langage universel pour toutes les sciences de la quantité, c'est les mathématiques. Et ça, c'est le génie grec qui a trouvé le langage des sciences. Ou du moins, je précise, qui a établi que c'est la mathématique qui doit être le langage des sciences. Et une science n'est vraiment scientifique quand elle peut s'exprimer en termes de mathématiques. Et tous les mathématiciens de l'univers parlent une langue universelle lorsqu'ils traitent des choses de la matière et des sciences, la mathématique. Il n'y a pas une différence entre un mathématicien japonais et un mathématicien irlandais. Il y a des différences de tempérament qui fait que ça module leur découverte, leur discours, leur exposition. Mais à travers la civilisation grecque, l'humanité a trouvé la langue de la quantité. C'est clair, la langue une de la quantité. Le problème de la langue une dans le monde de la qualité, de la personne, du problème moral, de la liberté, ça c'était le problème d'Israël. Et c'est pourquoi vous avez des midrashim qui disent que cette langue une, c'est l'hébreu. C'est l'hébreu avec son quotient mathématique, qu'on appelle la gamatria. Bon, je reviens en tout cas. Une petite incidente pour montrer l'importance de ces choses. Le Gaon de Vilna a enseigné. Le jour où le même savant fera un chidouche, ça veut dire la découverte d'une donnée nouvelle, vraiment nouvelle, chidouche, dans la Torah et dans les mathématiques, c'est un signe des temps messianiques. Le Gaon de Vilna dit ça. C'est d'ailleurs un très grand mathématicien. Je referme la main. Il était aussi d'ailleurs un très grand, tout ce que vous voulez. Son père lui avait promis de ne jamais être pharmacien. Je vous ai raconté ça une fois. Parce que si on apprenait que le Gaon de Vilna fait des remèdes, il y aurait la queue pour avoir l'aspirine du Gaon de Vilna, il n'aurait pas le temps d'étudier. Et son père lui a sérieusement fait promettre de ne pas ouvrir une boutique d'apothicaire. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet. Le fait de dire que l'humanité parlait une langue une, ça indique qu'il y avait vraiment l'universel concret. Les poètes ont été à la recherche de cette langue une à travers la poésie. Il y a une école de poètes en France qui cherchait cela. C'est les symbolistes. Je ne sais pas si vous vous rappelez des poèmes des symbolistes. Okay, en particulier, des poèmes de... qui c'est qui a fait ce sonnet ? A bleu, O vert, I rouge. J'ai oublié tout ça. Après le Parnasse. Hein ? Ça va me revenir tout à l'heure. Non, pas vrai. Baudelaire, Bon. C'est chercher cette langue-là. Hein. Et je crois que les poètes ont intuition de cette langue-là. La langue dans laquelle on pense lorsqu'on traduit d'une langue à une autre. Lorsqu'on traduit d'une langue à une autre, on pense par une autre, à travers une autre langue qui fait le trait d'union entre les deux. Cette langue, elle est dans l'inconscient. Bon, je reviens au sujet après toutes ces échappées importantes. Hein. Et alors, il en a résulté les nations, les goïmes. Ça veut dire différentes manières d'être homme, très spécifiques. Et j'ajoute, l'enseignement de la Torah, c'est qu'elles sont toutes géniales. Chacune a son génie, mais elles sont en rivalité. C'est clair ? Les guerres commencent à Dor HaPelaga. Les guerres commencent, l'histoire des guerres commence après Babel. Chacune arrivée pour des raisons économiques, historiques, culturelles, que les historiens étudient pour chaque société considérée, arrivée au degré d'évolution telle qu'elle pense prendre la tête du rêve universel de la réunification de l'humanité, eh bien, fonde l'empire de sa nation. Alors que le rêve, c'est l'universel, ça bascule dans l'impérialisme. Donc, d'où ça vous éclairera un peu l'échec du cosmopolitisme, d'ailleurs. Quelle est la différence ? L'universel, ça veut dire que toutes les manières d'être homme sont en harmonie, chacune à sa place, alors que l'impérialisme, c'est une manière d'être homme qui veut faire l'unité humaine en imposant sa manière d'être homme aux autres. Vous voyez la différence ? Le rêve de l'universel a toujours été authentique chez les fondateurs d'empires, mais a toujours basculé dans l'impérialisme. Et je vous donnerai un exemple qui nous est très familier, c'est l'Empire français qui sort de la Révolution française. Les idoles de la Révolution française, c'était l'universel humain. Qu'est-ce qu'il en sort quelques années après l'Empire français? C'est clair. L'Empire est sorti de la Constituante. Et ça veut dire quoi, l'Empire français? C'est l'identité française qui veut s'imposer comme modèle impérialistiquement à toutes les autres manières d'être homme pour refaire quoi? L'universel humain. Mais c'est de l'impérialisme. Nous sortons à peine, après la Deuxième Guerre mondiale, du temps de l'impérialisme français. Il y a encore un impérialisme subtil. Mais c'est, je pense qu'il est suffisamment clair. Alors, il y a les grands exemples de la Grèce, par exemple, de l'Égypte. Vous voyez, une société qui arrive à un degré d'évolution tel qu'elle prend en charge ce rêve de l'universel humain. Et inévitablement, ça bascule dans l'Empire. Bon, ça a été le cas à Babel. C'est à Babel que la civilisation a éclaté et a eu l'Empire de Babel qui a voulu s'imposer au monde de l'époque. Alors, où sont les Hébreux? Là où la civilisation passe. Précisément, là où il y a l'Empire, sont les Hébreux. Et l'histoire universelle est catégorisée par le Midrash à ce niveau. Et c'est le Maharal qui en a fait la théorie dans deux de ses livres. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a quatre grands empires que l'histoire d'Israël a traversés. L'empire de Babel, l'empire de Perse, l'empire de Grèce et l'empire de Rome. On est sorti de l'empire de Babel avec Abraham. On est sorti de l'empire de Perse avec Mardochée et Esther, Purim. On est sorti de l'empire de Grèce avec Hanouka, les Maccabées. On sort de l'empire de Rome avec l'État d'Israël contemporain. Avec l'État d'Israël contemporain. On sort de la situation de l'Empire romain. Pendant que l'Empire romain s'achève, Israël ressuscite. Pendant que l'Empire grec s'est achevé, c'était Judas Maccabée. Pendant que l'Empire perse s'est achevé, c'était Esther et Mardochée. Et pendant que la grande situation de Babel s'achève, c'est la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim et ça se réalise à la sortie de l'Égypte avec Moïse. Voilà. Vous voyez les quatre. Pessah, Purim, Hanouka et Matzmaout. C'est les quatre sorties des quatre empires. Alors, il y a quatre empires et les exils correspondants. Vous avez compris cette schématisation? Je pense que c'est suffisamment clair. Alors, où sont les Hébreux? Ils sont dans la Babel du temps. Aujourd'hui, la Babel, c'est pas la Grèce, c'est pas Rome, c'est pas l'Égypte, c'est une filiale de Rome qui est l'Amérique. Alors, c'est là-bas que ça se passe. La diaspora, finalement, c'est l'Amérique et le reste. Est-ce que c'est clair? Babel de notre temps, ça se passe à Brooklyn. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est les rabbins américains qui le disent. Nous sommes au service de la civilisation du temps. Ils le disent en clair, ils ne voulaient pas entendre. C'est les rabbins de là-bas qui le disent. Si vous voulez, je vous fais une petite analyse sociologique du judaïsme français, vous allez voir à quel point c'est grotesque de même de faire l'analyse. J'ai une petite parenthèse. Vous savez qu'actuellement, il y a des pourparlers entre le Vatican et Israël. C'est clair. Je pense que dans pas très longtemps, on entendra un peu des résultats de ces pourparlers. Apparemment, il s'agit de discussions sur les biens d'exil en Terre Sainte. En réalité, il s'agit du fait que le Vatican est pratiquement un des derniers États du monde à ne pas avoir reconnu Israël et qui veut reprendre le train en marche avant qu'il soit trop tard. Il va reconnaître l'État d'Israël. Et il sait qu'il y a un problème théologique énorme, c'est pourquoi ça tarde tellement, c'est pourquoi c'est si difficile. Tous les alibis qui sont donnés sont de faux alibis, mais maintenant ils sont pris au piège du dernier des alibis qui était « et les Palestiniens ». Alors maintenant que Rabbi est palestinien, ils n'ont plus d'alibis. Donc, vous savez, nous avons des problèmes rabbiniques avec les Palestiniens. En tout cas, pour revenir au sujet... finalement, on apprendra dans les temps qui viennent quelque chose d'inouï que le Vatican va peut-être reconnaître l'État d'Israël. Je mets ça avec des tas de points de suspension. Est-ce que c'est Jean-Paul II? Est-ce que c'est son successeur? Vous verrez ça dans les mois qui viennent. Mais non, ceci dit, il en résulte qu'il va falloir que la chrétienté, à travers le Vatican, se trouve une définition du mot Israël qu'elle s'applique. Parce que si elle reconnaît Israël, c'est l'État juif, ça veut dire que l'État des Juifs, disons, elle reconnaît que c'est les Juifs qui sont Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire Israël pour les chrétiens? Il ne peut pas y avoir deux Israël. Et l'histoire de 2000 ans de chrétienté montrent qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Pourquoi l'histoire juive chez les chrétiens est escalée? Parce qu'il ne peut pas y avoir deux Israël. Alors ils se sont inventés des échappatoires sémantiques. Israël, c'était les juifs, c'était Israël selon la chair, alors que les chrétiens, c'est Israël selon l'esprit, c'est-à-dire le vrai Israël, qu'ils appelaient Vérus Israël, ils avaient le virus d'Israël. Et puis, certains plus sérieux disaient le nouvel Israël. Mais tout ça, c'est des échappatoires sémantiques. Aujourd'hui, Israël, c'est une société politique. Et effectivement, le schisme à la fondation du christianisme, ça a pris quelques générations, a été d'abord politique avant d'être religieux. Je vous ai une parenthèse, j'espère que ça va affoler personne. Les premiers chrétiens étaient des juifs, qui se sont appelés judéo-chrétiens, qui ont cru que leur Rosh Yeshiva, c'était un messie. Eh bien, nous avons un exemple aujourd'hui. Vous avez les chassidim de Lubavitch, qui sont persuadés que leur rabbi, qui est un éminent rab, est le roi messie vivant. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Okay ? Bon, l'ensemble du peuple juif a un sourire agacé, amusé, ce que vous voudrez, mais n'y croit pas. Okay ? Est-ce que ça empêche les chassidim de Lubavitch d'être considérés comme juifs ? Et pourtant, ils ont une foi atypique. On les voit jouer au christianisme. Hein? Notre rabbin, c'est le Messie. Je ne sais pas si c'est bien. J'espère que vous n'aurez pas de cauchemar. Hein? Et alors, et pourtant, c'est des juifs. C'est des juifs. C'est des juifs en or. Bon, donc, quand est-ce que le schisme avec les chrétiens est apparu ? C'est quand les chrétiens ont changé d'identité politique. Ils ont pris parti pour Rome contre Jérusalem. C'est clair ? Bon, ça a pris 3 siècles, Constantin et la suite, vous connaissez l'histoire. En schématisant, il y a eu un temps judéo-chrétien, chez ces chassidim de l'Antiquité, et puis finalement, c'est les chrétiens, qui n'ont plus rien à voir avec les juifs. Okay ? Alors ne me faites pas dire que les Lubavitch, c'est déjà les chrétiens en marche. Je crois qu'ils courent, mais enfin, j'ai pas dit ça. En tout cas, pour revenir au sujet, il en résulte qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans ? Ce n'est pas une rivalité de deux Israël, avec comme critère de schisme un critère religieux d'abord. C'est une rivalité de deux diasporas d'Israël, avec comme critère de schisme un critère politique. La diaspora juive, qui restait fidèle à l'identité hébraïque, à travers toutes les difficultés que vous savez, et la diaspora chrétienne, qui a opté pour le véhicule culturel et cultuel gréco-romain. Et c'est devenu le christianisme. Mais c'est une rivalité de deux diasporas d'Israël hébreu. La juive et la chrétienne. Est-ce que c'est clair ? Alors il en résulte que si le Vatican reconnaît Israël, ça veut dire qu'il se reconnaît, lui, comme une diaspora d'Israël, la diaspora chrétienne, qui entre en compétition avec la diaspora juive. Alors maintenant, prenons le cas de la France. Qui est en charge de la nation française pour le message biblique ? L'Église de France ou la synagogue de France ? Parce que les chrétiens et les pauvres, c'est les Français. Les juifs aussi. Mais de quelle manière ? Cosmopolite. Est-ce que vous voyez la différence ? Pourquoi les juifs sont français ? Pas parce qu'ils sont nés de la nation française, parce qu'ils sont citoyens de l'État français. Et alors donc, cadeau, ils se prennent pour des Français. Est-ce que c'est clair ? Bon. Donc, il y a une interpellation de la diaspora qui va apparaître. C'est pourquoi les juifs de diaspora n'ont aucun intérêt à ce que l'Église reconnaisse Israël. Parce qu'il va y avoir une compétition de deux manières de dire Amen. Une en latin et une en hébreu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis-là. Et tout ça, ça fait d'excellents Français. Alors, c'est ça qui est en train de se dévoiler. Alors qu'Israël, lui, c'est, je ne vous dévoile aucun secret, vous lisez les journaux, que cette reconnaissance d'Israël par le Vatican est inévitable, passer l'intérêt du Vatican, mais pour Israël, ça n'a plus aucun caractère d'urgence. L'Indonésie va déjà nous reconnaître. Alors, vous comprenez le problème. Donc le problème, c'est l'interpellation de qui est en charge de la nation française, les juifs ou les chrétiens en France. Vous voyez la gravité du problème. Bien. Voilà, c'est ça que je voulais désigner. Et alors, ça se rattache à ta question. Bien. Les Hébreux étaient en charge de la vie spirituelle de Babel. Qu'est-ce que faisait Terach, le père d'Abraham ? Il fabriquait les idoles de l'idolâtrie d'Ur-Kasdim. C'est lui le marchand d'idoles, c'est-à-dire le marchand de symboles religieux. Qu'est-ce que font les juifs ? Ils fabriquent des idéologies intellectuelles et spirituelles pour les goïms. Chez les goïms, bien sûr. Ici, ils font des tomates juives et des bananes saintes. C'est différent. Ben, si, c'est clair, je lui dis. Bon, c'est un autre sujet, mais on y revient. Pardon ?
L'Israël actuel a du mal à se libérer de
son origine juive. Il faut être courageux et dire les choses comme elles sont. Bien. Nous sommes en train de nous dégager du placenta diasporique, galoutique. Et alors, eux, se cherchent encore une placentaire. Parce que c'est le judaïsme placentaire. Et bon, pour revenir aux Juifs, vous savez que le rêve des Juifs de diaspora, c'est d'avoir une placentaire, non ? Bon, macabre en plus. C'est inversé. Vous êtes venu et vous avez rendu impur ma terre. C'est les prophètes. Comment dire ? Avec quoi ? Avec vos cercueils. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet. Vous voyez que nous sommes en gésine de la nation hébraïque. Il ne faut pas avoir peur des images. Parce que les images du Midrash. Donc, voilà donc pour ta question. Si on se demande, mais que faisaient les Hébreux à Babel ? Demande-toi tout simplement, qu'est-ce que font les Juifs à Sarcelles ? Ou à Anvers, ou à Strasbourg. Et ou à Oran. Mais grâce à Dieu, il n'y a plus de Juifs à Oran. Il doit y avoir encore des Arabes, mais... Donc, bon, Jensen, votre question.
Une question technique à propos de la Shoah de Haut-Kasdim. Le Midrash qui parle, le Midrash que je connais, il parle uniquement de Abraham, parce qu'il a révisé le cas de la Vadazara qui a été mis en cours.
Non, vous avez un Midrash qui parle de Haran, le père de Lot. Oui, reprenez la. Comment dire la. Abraham est un miraculé de la Shoah, sauvé de Haut-Kasdim, effectivement. Mais reprenez la carte d'identité de cette famille d'Abraham. Terach a trois fils. Un Nahor, qui va rester à Aram Naharaim. Il va rester en Galut. Et il va rester araméen. Ça, c'est le passage d'identité Abraham. Je ne sais pas si je vous ai encore cité aujourd'hui la citation de la Gemara. Non, j'ai dû vous l'indiquer sans vous la citer. Il y a d'abord l'identité araméenne, c'est l'hébreu de Babel, l'hébreu en exil à Babel. Et cet hébreu en exil à Babel est Abraham, Arami. Il redevient hébreu, il s'appelle Abraham. Mais pour passer de Abraham à Abraham, c'est tout le récit de nos deux parachutes, c'est des épreuves énormes qu'Abraham doit passer. Est-ce que Abraham, tu mérites déjà de t'appeler Abraham ? Quand tu es Abraham, tu seras stérile, mais c'est à toi que je dis les promesses. Dès que tu es Abraham, tout va se réaliser. Vous avez compris le problème ? Mais c'est ce qui nous arrive. Nous arrivons comme juifs, il faut devenir hébreu. C'est le passage de la citoyenneté israélienne. La municipalité israélienne transforme des juifs en hébreux. Vechiper admato amu. Je ne traduis pas, mais vous entendez en hébreu. Et c'est ça ce qui se passe dans la municipalité d'Israël. Israël prend des juifs et en fait des hébreux. Et ça fait du bruit. Et dedans et dehors. C'est clair. Et alors, il y a tous les chas vechalom possibles et imaginables. Il y a tous les chas vechalom possibles et imaginables. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, vous avez un midrash qui dit clairement cela. Haran, le père de Lot, est mort à Haut-Kasdim. Nahor est resté dans la galoute de Kasdim. C'est Abraham qui quitte au Kasdim et qui entreprend ce processus où il redevient Abraham. Voilà, je crois qu'on a un peu avancé sur cette récapitulation. Et regardez que c'est exactement notre carte d'identité sociologique aujourd'hui. Une partie du peuple juif est restée dans les fours crématoires, Haran. Une partie du peuple juif est restée en galoute, Nahor. Une partie du peuple juif revient en Canaan, Abraham. C'est clair ? Et puis, il faut voir la suite. Il faut voir la suite. La suite de ce qui vient de Nahor, c'est une lutte terrible contre Israël. Et alors, que Dieu préserve que ça nous arrive. C'est-à-dire, Nahor, c'est l'hébreu de Babel qui décide de rester Aram. Et il y a des guerres terribles entre Israël et Aram jusqu'au temps du roi David. Et le roi David a été fait prisonnier des Araméens, etc. Et qui c'est les Araméens ? C'est cette identité hébraïque devenue Aram à Babel. D'où sort Abraham ? Est-ce que c'est clair ? Alors, je vous donne la référence. C'est la fin du premier chapitre de Brachot. Abraham, ou Abraham, Batrila, Haya, Av, Le, Aram, Ulbasso, Naasa, Av, Echol, Aram, Kulo, Shemema, Kiab, Hamon, Goim, Netatir. Gemara, Meforesh. La Gemara nous a dit en deux lignes quelle est notre histoire sociologique actuelle. Nous arrivons à Abraham, il faut devenir Abraham. Et alors, notre paracha raconte toutes les épreuves par lesquelles Abraham doit passer pour devenir Abraham. La première, c'est la séparation d'avec l'autre. Mais j'ai toujours ma question en l'air. Pourquoi il faut tellement, je voulais étudier plus en détail, mais je le dis rapidement pour avancer, pourquoi il faut tellement que Dieu enfonce ce clou, Abraham, cette terre c'est à toi, je te la promets, je te la donne, je te la jure, à toi et à tes enfants. La réponse du Midrash sur l'ensemble du texte est la suivante. Abraham n'est pas sûr d'avoir suffisamment de mérite pour la mériter. C'est pas qu'il doute que c'est sa terre, c'est pas qu'il doute que Dieu peut la lui donner. Il n'est pas sûr d'avoir suffisamment de mérite pour être celui à qui Dieu parle, confirme ça. C'est une exagération de la vertu qui est une maladie juive. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Nous avons un livre entier du Maharal là-dessus, qui pose la question suivante. Pourquoi le peuple de la descendance d'Abraham, Israël, parce qu'on va voir ce qui arrive avec les autres lignées, Ishmaël et Esaü, a tellement souffert parce qu'Abraham a dit à Dieu, donne-moi un signe. C'est le mythe du péché originel. Alors le premier homme a mangé une pomme et personne ne comprend ce que ça veut dire. Et pour ça, l'humanité entière passe par où elle passe. Dans la tête de quel théologien ça rentre? Il n'y a que les australopithèques qui croient comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une mythologie du péché originel. Les gens ne se rendent pas compte du scandale de ce qu'ils racontent. Notre ancêtre, le premier homme, qui a été le premier être vivant à avoir le courage d'être homme, il fallait le faire, hein, aurait mangé une pomme avec du miel le jour de Rosh Hashanah. Et puis, la conséquence, c'est l'enfer terrestre, dans la tête de qui ça rentre. Personne ne comprend rien, mais merci dit, on continue. Et je ne sais pas parler yiddish, mais vous l'avez entendu en arabe. Hein. On raisonne comme des primitifs. Vous savez que c'est primaire supérieur, c'est supérieurement primaire. Alors la même chose, Abraham... Ah, une exagération de la vertu. Dieu lui dit, ça y est, tu mérites, confirmé. Et Abraham lui dit, je mérite? Point d'interrogation. Alors lui dit, ah, c'est comme ça, exil d'Égypte et tout le reste jusqu'à la fin des temps. Péché originel. Et le Maharal va poser la question suivante. Et si c'est pour une faute d'Abraham qu'on est exilé, pourquoi ça ne commence pas avec lui l'exil? Pourquoi l'exil ne commence pas avec Abraham et commence qu'avec Jacob? C'est dans notre paracha que nous avons, et Adouar Tedak, Yerézara, Chabekoudekem, vous suivez le texte. Alors il répond, si ça avait commencé avec Abraham, l'exil aurait concerné Ishmaël. Or la terre n'est promise et confirmée qu'à ceux qui acceptent l'éventualité de l'exil. C'est ceux qui ont connu l'exil d'Ur-Kasdim, à qui Dieu dit, tu as passé l'expérience de l'exil, tu auras la délivrance. La promesse de la terre ne concerne qu'à la descendance d'Abraham, qui accepte l'éventualité de l'exil. Et donc, si l'exil avait commencé avec Abraham, Ishmaël aurait connu l'exil. Et donc, il aurait des droits sur la terre. Vous voyez qu'on est en pleine actualité. Or, il faut savoir, Ishmaël n'a jamais connu l'exil. Il a toujours voyagé partout, mais en conquérant. Il a connu des effets, mais jamais l'exil. Sauf en Israël. Et les Israéliens ont décidé que c'est pas normal, il faut plus qu'ils soient en exil. Donc, c'est les Mitnachalim qui sont en exil. Bon, mais ça va changer, mais on vous dira pourquoi après. Vous voyez que c'est les Juifs. Et alors, le Maharal continue. Et pourquoi ça ne commence pas avec Isaac? Parce que si l'exil commençait avec Isaac, ça concernait Esav. Or, Esav, qui a fondé l'Empire chrétien, a voyagé partout, mais toujours en conquérant. Il n'a jamais été en exil, sauf ici. Et vous savez, vous avez entendu, il y a deux jours à la radio, le patriarche, je ne sais plus qui, a lancé un appel dans le monde que tous les Palestiniens chrétiens rentrent au pays puisque maintenant c'est Arafat le roi. Vous n'avez pas entendu ça? Et alors, on parlera une fois de ce problème. Ishmaël et Esav en exil chez Israël. Mais ils n'ont jamais connu l'exil. Ils ont toujours voyagé partout en conquérant. Et c'est pourquoi c'est Jacob qui commence l'exil. Parce que la promesse de la terre ne concerne que la descendance de Jacob. Et pas les autres lignées d'Abraham qui se passent de cet exil. Ils savent ce que les voyages, mais c'est les voyages de conquérants. C'est les voyages d'impérialistes. Est-ce que c'est clair l'analyse? Bon. Et ça vous est dit en clair dans une Mishnah de la Haggadah, que vous allez m'aider à retrouver dans ma mémoire. Vaikach et Abichem et Abraham et Evernar, Vaolechoto et Choleveskenaan, Vaarbe et Zaro. Ça c'est. Ça c'est Ishmael. Vaiten et Yitzhak, Vaiten et Yitzhak. את יעקב ואת עשיו, ואת עין עשיו, ואת הרסיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. Alors, reprenez le Maharaj sur cette Mishnah de la Haggadah. Vous voyez, je vous la retraduis en français. C'est la Haggadah de Pessah, de la sortie d'Égypte, qui rappelle l'histoire d'Abraham. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du feu, pas le Jourdain, c'est l'Euphrate, l'Euphrate, okay? Nahar Prat, l'Euphrate, okay? le fleuve de Saddam Hussein. J'ai multiplié sa postérité, ça c'est Ishmaël, et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. J'ai donné à Ésaü la montagne de Séhir pour en hériter. Et Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. Voilà, c'est clair. Ça veut dire, l'exil commence avec Jacob. Seule la descendance d'Abraham qui est capable de l'exil a la promesse de la terre. Vous allez utiliser cela pour ce qu'on a appris la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était la semaine dernière. C'est encore dans ma mémoire, mais peut-être c'est l'année dernière, je ne sais pas. C'est que l'humanité entière a trouvé dans la foi d'Abraham le principe du salut. On a parlé de ça la semaine dernière, oui. Et vous voyez pourquoi ? Parce que la condition de créature, c'est une condition d'exil. La créature est en exil du créateur. Et donc, toute créature, tout nibra, comme on dit en hébreu, pas bria, nibra, tout être qui a la condition de créature a une conscience existentielle de mal-être, d'être en exil de la source de l'être. Et chaque tradition l'exprime à sa manière. Et chaque tradition exprime à sa manière l'exigence du salut de cette condition de créature, c'est clair ? Et voilà qu'elle rencontre un peuple dont la condition historique, c'est exil-délivrance. Alors, elle diagnostique en lui la preuve que le salut est possible. Voilà pourquoi Pâques joue un tel rôle chez l'égoïme. Okay ? Parce que Pessah, c'est la preuve qu'on peut sortir d'exil. Est-ce que c'est clair ? Alors, la condition humaine est une condition d'exil. Et on rencontre dans l'histoire humaine un peuple dont c'est l'identité existentielle. Alors, on sait que le salut vient des Juifs. Parce qu'ils sont la preuve que le salut est possible. Bon, je vous ai résumé le raisonnement. Mais rattaché à ce qu'on vient d'apprendre dans cette Mishnah, qui de la descendance d'Abraham est porteur de l'espérance de salut ? La descendance de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, parce que c'est eux, la descendance de Jacob, qui connaissent cette équation exil-délivrance, Galut-Geula. Est-ce que c'est clair, monsieur ? Bon, alors on avance. On va prendre notre texte, qui va établir qu'effectivement, notre texte du Midrash, mais c'est 8 heures déjà, et on n'a pas commencé le cours. Non. Ah, ça va. Bon, alors écoutez, vous allez l'étudier, vous allez lire en hébreu. Okay. Vous allez voir dans ce texte la preuve qu'effectivement, le Hefrecha devait arriver à... Laissez-moi finir le sujet, à Eretz Amoria. Toute la paracha raconte les péripéties de la séparation d'avec Lot. Vous vérifierez vous-même les versets où il est parlé de Lot. Au début, ils font le chemin ensemble, Lot et Abraham. Ensuite, il y a une expérience en Égypte, que je vous rappelle très rapidement, certains d'entre vous ont déjà étudié les années précédentes, on y arrivera dans d'autres parachutes. C'est ceci. Abraham arrive à un certain âge et il a un message à délivrer dans la civilisation extérieure, qui était la civilisation égyptienne. La femme, l'épouse, c'est la sœur. Il y a deux catégories de l'amour. L'amour entre l'époux et l'épouse et l'amour entre le frère et la sœur. Et alors, au niveau du premier homme déjà, par rapport aux espèces animales, apparaît l'amour entre époux et épouse, Ishisha, c'est plus mâle et femelle seulement. Et puis, les patriarches reprennent ce problème au niveau supérieur. Et au-delà de époux et épouse, frères et sœurs. Et alors, il y a un progrès de la moralité au niveau Abraham et Sarai. Ils vont devenir Abraham et Sarah après cette épreuve que l'époux et l'épouse se reconnaissent comme frères et sœurs. Il y a un progrès dans la moralité. Alors, on voit corollairement une chute de la moralité de Lot. Lot va rentrer dans l'immoralité sexuelle. Mais ça commence déjà par une mise à l'épreuve au niveau de la morale fondamentale des rapports d'autrui à autrui. Les bergers de Lot faisaient paître leurs troupeaux dans des champs qui ne leur appartenaient pas. Querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abraham intervient et demande à Lot de se séparer d'Abraham. Alors ça signifie, je schématise beaucoup, que la séparation entre Lot et Abraham a pour principe une épreuve dans l'ordre de la moralité. Plus Abraham monte dans la moralité et Lot descend, Vous savez ce que va devenir Lot? Lot va devenir, je ne sais pas comment dire, le prêtre de Sodome et Gomorre. Bon, on en parle un autre jour, mais vous voyez quel est le thème. Il est l'homme de la vertu hébraïque ou à Sodome et Gomorre. Okay. Et voilà donc la raison de cette séparation. Alors on va suivre cette histoire dans Abraham. Mise à l'épreuve de l'identité d'Abraham, Abraham, es-tu capable d'être Abraham qui sera le principe d'Israël? Abraham va traverser 10 épreuves que la Torah nous raconte dans son histoire jusqu'au moment où on arrive à celle intitulée à tort du sacrifice d'Isaac. Et là, il est confirmé. Abraham est devenu Abraham. Le cycle d'Isaac va commencer. Donc l'identité hébraïque est refondée et le premier fils d'hébreu, ça va être Isaac. C'est ce qu'on va retrouver dans les sidrotes qui viennent. Voilà grosso modo ce que je voulais indiquer. Alors, vous retiendrez cela. C'est que, pour nos deux questions fondamentales, le passage d'Abraham à Abraham n'est pas facile. C'est pas évident qu'Abraham puisse ipso facto redevenir Abraham. Il faut passer par Asara Nisyonot, 10 mises à l'épreuve. Ne raisonnez pas sur ce que la Torah raconte d'Abraham en pensant à Abraham. Est-ce que c'est difficile pour Abraham de surmonter cette épreuve? Pour Abraham, c'était très difficile. Alors simplement appuyez-vous sur notre expérience contemporaine. C'est très difficile pour un juif de redevenir un hébreu. C'est cette difficulté-là, ça va pas de soi qu'un juif cosmopolite devienne membre de la nation d'Israël hébraïque. Il faut le faire, il faut y passer. Ça se passe à travers une histoire de la société, mais ça se passe à travers les générations et ça va vite. C'est le petit-fils, le grand-père était encore du ghetto, le fils de l'assimilation, le petit-fils est israélien et l'arrière-petit-fils est gagné. Vous voyez comment ça marche, hein? C'est un hébreu. Mais entre-temps, on laisse des plumes. Et on nous a parlé de tous les déchets, de toutes les scories, de ce qui empêche cette émergence, réémergence de l'identité hébraïque. Premier principe. Deuxièmement, dans cette histoire d'Abraham, la question que j'ai posée au début, pourquoi il faut que Dieu s'entête à réhébraïser Abraham sur sa terre? C'est pour lui enlever ce doute. Est-ce que vraiment je mérite? Parce que il y a, ça on le verra plus en détail les prochaines fois, ce complexe du juif revenu de l'exil. J'ai joué à être l'autre. Est-ce que je suis moi? C'est ça, ce doute-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. On le verra surtout dans une ultime épreuve de Jacob. Lorsque Jacob revient en fin de compte et affronte Ésaü, à qui appartient Eretz Israël, la Terre Sainte, à toi Ésaü, à moi Jacob, alors il démontre, on le verra dans le texte, il démontre que je ne me suis jamais considéré que comme un métèque en exil, alors j'ai droit à ma terre. Il n'y a que les juifs qui se sont débarrassés de ce complexe cosmopolite qui sont sûrs que cette terre est à eux. Bon, on reviendra. C'est pourquoi il est nécessaire de leur confirmer. Et quand on n'est pas sûr, eh bien on n'est pas sûr. Bon, c'est clair? Si j'ose dire, en français, pour être sur la terre, il faut être sûr de la terre. Ah oui, une minute, une minute. Je vais demander un peu de silence. Je peux vous demander un peu de silence. Je voulais vous montrer une curiosité. Dans cette paracha, il y a le verset que j'ai dit à Abraham, et se béniront en toi toutes les familles de la terre. À Rosh Hashanah, j'ai reçu la carte suivante. À l'occasion de Rosh Hashanah, 5754-1993, frères juifs, nous vous souhaitons une bonne année. En toi seront bénies toutes les nations de la terre, Genèse 12:3, les chrétiens d'Île-de-France. Si vous voulez. Vous voyez comme ça va vite.